Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Michel Rio-Sarcet, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine et d'histoire du genre à l'Université Paris 8 Saint-Denis. Vous avez reçu le 19 mai dernier le prix Pétrarque de l'essai France Culture Le Monde pour votre livre Le procès de la liberté, publié par les éditions La Découverte, et vous serez invité à prononcer la leçon inaugurale des rencontres de Pétrarque le lundi 11 juillet à Montpellier. Les rencontres de Pétrarque fêteront donc leurs 30 ans, et en face de vous, Jean-Marie Borzex, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été directeur de France Culture de 1984 à 1997, et c'est vous, Jean-Marie Borzex, qui avez créé les rencontres de Pétrarque en 1986. On va vous écouter, on va entendre ce que vous déclariez, Jean-Marie Borzex, en 1988, à propos de ces rencontres de Pétrarque.
Je vois que beaucoup de gens se précipitent sur 89 avec une avidité surprenante pour essayer de semble-t-il, devancer l'événement. C'est pas du tout notre souci. Notre souci, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé en 89 à travers ce qui s'est passé auparavant. Et nous allons donc étudier, là, le 18e siècle. J'ai voulu que l'on sorte du cénacle des historiens, là, des historiens très éminents, comme Michel Vauvel, comme beaucoup d'autres, et des historiens étrangers, ce qui n'est pas sans importance.
Et des journalistes.
Il y aura Jean-François Kahn, il y aura Alain de Benoît, Jean-Marie Domenac, des personnalités très diverses par leurs engagements, par leur idéologie et par leur connaissance de la Révolution. Et j'ai l'espoir que les débats, je le sais déjà, puisqu'ils ont commencé, ils ont beaucoup de succès.
Beaucoup de
public.
Oui,
400-500 personnes tous les jours.
Et beaucoup d'éditeurs sur France Culture.
Ah ben ça c'est plus tard. On diffusera tout cela au mois d'août, pendant nos programmes d'été, parce que vous savez que sur cette radio, pendant l'été, nous gagnons beaucoup d'auditeurs. Des auditeurs qui ne peuvent pas nous entendre parce que pendant la journée, parce qu'ils travaillent, comme tout le monde d'ailleurs, pendant le reste de l'année.
France Culture et 1789 vont bien?
Ah oui, je crois que France Culture va bien, oui, oui. Je vois bien, je crois qu'elle va bien et que les auditeurs qui sont fidèles sur cette chaîne savent qu'elle ne correspond pas dans sa réalité quotidienne à l'image que parfois on en a.
Votre voix, Jean-Marie Borzex, on voit que l'idée primitive des rencontres de Pétrarque était de faire vivre le pluralisme, le débat d'idées, à une époque où celui-ci était particulièrement difficile à instituer parce que les gens se parlaient peu, Jean-Marie.
D'abord, je suis frappé par l'élan, l'entrain, l'enthousiasme que je manifestais à cette époque. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui je n'en ai plus, mais quand même, il y a un certain contraste. C'est vrai qu'à cette époque... Alors, quand même, il y a 30 ans, nous vivions des événements tout à fait différents. Il y avait, comment dire, une guerre froide idéologique qui pesait sur notre pays et qui faisait que on se parlait peu et on ne se parlait presque pas d'un bord à l'autre. Et ce pourquoi Jean-Noël Jeannet, président de Radio France à l'époque, et moi-même, nous avons souhaité créer ces rencontres, c'est pour que les gens se parlent, pour qu'il y ait de nouveau un dialogue. Et nous avions mis au départ dans le coup 4 revues, Esprit, Commentaires, je ne sais plus... Le débat, La liberté de l'esprit de François Georges, etc. Des revues qui nous aidaient. Et on s'est mis à se parler. Et j'ai vraiment voulu, avec beaucoup de constance au fil des ans, que le plateau des participants soit le plus possible ouvert, qu'il y ait là des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés. Et donc c'est une fin de guerre idéologique que l'on a constatée, qu'on en a provoquée. Et c'est à ce moment-là que, je crois, ces rencontres ont connu le succès qu'elles ont connu. Alors, si vous m'interrogez sur le comment, je serais plus disert.
Le comment, il me semble que vous aviez pris un dispositif qui était assez pragmatique mais assez efficace, qui consistait à mettre tout le monde dans le même hôtel.
Ah oui, ça c'était très 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 important. Parce qu'au fond, j'avais un repère et un modèle. Je ne le disais pas trop parce que c'est un repère et un modèle très ambitieux. C'était les décades de Pontigny. Vous savez, ces rencontres si importantes dans le débat d'idées, créé par Paul Desjardins dans l'abbaye cistercienne de Lyon, où s'est rencontrée toute l'élite intellectuelle de l'Europe et de la France pendant 30 ans. Et c'était des décades. Les invités à ces rencontres, ils restaient 10 jours sur place. Ils vivaient ensemble pendant 10 jours. Alors, on n'a pas osé les convier. On n'avait peut-être pas les moyens non plus. Il faut bien voir, la radio était pauvre à l'époque. On n'a pas invité les différents intervenants à rester 10 jours, mais ils sont restés une semaine. Et nous avons vécu ensemble une semaine. Et une semaine à une vingtaine, c'est beaucoup. Parce que ce qui se passe de plus important, c'est pas nécessairement ce qui se passe derrière une tribune, derrière un micro, c'est aussi ce qui se passe au cours du repas le soir, qui se prolonge très tard, et l'après-midi en regardant les émissions sportives.
Effectivement, il y avait un véritable pari de faire cohabiter des gens aussi dissemblables dans leur façon d'être, mais aussi dans leur représentation du monde, que Domnach, Casanova ou Alain de Benoît.
Oui, mais j'ai tenu à ce qu'il y ait cet éventail très ouvert.
Et alors, comment ça s'est passé au départ? Parce que j'imagine
que ça n'a pas été facile. Au départ, certains frôlaient les murs. Se disant, nous sommes en terre étrangère, on va peut-être tomber dans un guet-apens. Et puis peu à peu, ça s'est passé de façon, je dirais, presque fraternelle. Je me souviens de rencontres entre Boutan et Vauvel. C'était quand même pas tout à fait le même monde. Eh bien, ça se passait très bien.
Il me semble que ceux qui rasaient les murs étaient à l'époque plutôt... les libéraux, je crois que du côté de commentaires, on avait peur.
Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Je vous confirme que cette intuition est la bonne.
Et alors, comment faisiez-vous pour les mettre à l'aise, Jean-Marie Borzec?
On les faisait vivre ensemble, et on s'apercevait qu'ils partageaient tous la même culture. Et donc, à partir de ce moment-là, ça ne veut pas dire du tout que leurs idées étaient ramollies. Non, pas du tout.
Michel Rio-Sarcey n'a pas l'air d'être d'accord. On va lui donner la parole.
Elle ne croit pas à l'effet de cet environnement environnemental, je dirais.
Pourtant, c'est une spécialiste des utopies. Donc vous avez beau être une spécialiste des utopies, Michel Rio-Sarcey, vous ne pensez pas qu'il soit possible de faire cohabiter harmonieusement des gens qui ne pensent pas la même chose?
Je ne sais pas si c'est comme ça que je poserai la question, et je comprends très bien votre souci, parce que chacun est à sa place. Si je me souviens bien des débats qui précédaient le bicentenaire de la Révolution française, ces débats étaient extrêmement vifs et ils ont eu lieu, souvent de manière interposée, peut-être pas directement, mais tout simplement parce que il y avait incontestablement une école qui l'emportait sur l'autre.
Laquelle ?
Et l'école de Führer en particulier l'emportait très largement sur l'école Vauvel, c'est beaucoup dire, mais disons que la totalité de ceux qui estimaient que 1789 était encore en devenir avait une voix mal entendue, en quelque sorte, pas très bien écoutée par l'autre courant. D'ailleurs, l'autre courant, me semble-t-il, l'a largement emporté. Et aujourd'hui, nous sommes dans un rejeu de cette période, et je crois que l'esprit de 89, non pas au sens révolutionnaire Robespierre Saint-Just, non au sens révolutionnaire fondamental, c'est-à-dire cet esprit qui porte le principe espérance, renaît.
On écoute avec la voix de François Furet, justement, au micro de France Culture. C'était dans l'émission Agora, et c'était en 1979.
Au fond, je crois que le cœur de la Révolution française, c'est le jacobinisme. Et là-dessus, je serais tout à fait d'accord avec l'historiographie de gauche, je dirais, et Cochin aussi. Mais je ne pense pas le jacobinisme comme un pouvoir réel du peuple, comme un pouvoir du peuple empirique. Je pense le jacobinisme comme un système de légitimité politique, ce qui est tout à fait différent, système de légitimité politique qui inverse le système du droit divin des rois. Mmh. Autrement dit, pour moi, le jacobinisme est un absolutisme du peuple. Mmh. Et c'est à travers ce concept que je récupère l'idée de la continuité. Bien que le jacobinisme soit un système de légitimité contradictoire avec l'absolutisme de droit divin, il conduit à la reconstruction d'un État absolu, j'entends par absolu, un État qui soit transparent au social, c'est-à-dire un État qui absorbe l'ensemble de la société et qui n'autorise pas de dissentiment de la part de la société. L'État jacobin est aussi absolu dans l'État que l'État monarchique, dans la mesure où il recouvre absolument le social.
La voix de François Furet, Michel Rio-Sarcey, une réaction?
Oui, c'est bien, effectivement, François Furet qui parle, et je crois qu'on a encore tendance à imaginer la Révolution de cette manière-là. Il a tout simplement oublié François Furet avec toute son école et tous ses disciples, bien que Penser à la Révolution était un très grand livre de mon point de vue. Il a oublié quelque chose de fondamental qui rejoue à l'heure actuelle et qui renaît, c'est que la Révolution ne se fait pas par les partis politiques, quels qu'ils soient, ou les courants politiques, mais elle se fait par le peuple, au sens le plus fondamental et le plus large du terme. Si le peuple n'avait pas été là et conscient de l'être, avec cette idée qu'il était possible pour chacun et chacune de s'imaginer libre, eh bien, je crois que malgré les Jacobins, la Révolution n'aurait pas lieu. Donc cet oubli me semble particulièrement dommageable. Seulement, ça subsiste.
Jean-Marie Borzex, vous vous souvenez de François Furet aux rencontres de Pétrarque, vous vous souvenez de la manière justement qu'il a, ou dont il a fallu organiser ce débat d'idées et faire en sorte que ces différentes écoles se parlent.
Oui, mais je vous rappelle, les rencontres de Pétrarque, c'est 84. La Révolution, c'est 89. Enfin bon, on n'était pas en 84 obsédé par la Révolution. C'était une chose, mais on était obsédé par autre chose qui était, et ça venait de l'Est, le mouvement de libération extraordinaire autour de Solzhenitsyn et de tous les autres. C'était quelque chose de très important qui allait nous conduire à la chute du mur. Et la grande affaire de cette période, pour moi, ça a été la chute du mur. Et tout cela coïncidait avec le mouvement de libération en Amérique latine, la Grèce des colonels, l'Espagne, etc. On vivait dans un moment euphorique de reconquête de la liberté. Et on ne pensait pas à la Révolution nécessairement. La Révolution est venue ensuite. Et pour ce que vous dites, madame, à propos de la Révolution, ce n'est pas si simple. Je vous rappelle que la célébration de ce bicentenaire, de cet anniversaire, a été moins monolithe, moins uniforme que vous le dites. Bien sûr, il y avait plusieurs camps, plusieurs interprétations. Mais enfin, il n'y a pas eu une victoire de Furet et un écrasement de notre parti. Je vous rappelle que c'était Jean-Noël Jeannet qui dirigeait la mission du bicentenaire, et il veillait bien à ce que les différents partis, les différentes interprétations s'expriment.
Non, je ne parle pas du tout du rôle de France Culture dans ce rapport conflictuel et de débat. Vous avez parfaitement raison. Je crois que les équilibres étaient tenus. Non, moi je me souviens en tant qu'apprentie historienne de ce temps-là, et je vous assure que c'était assez difficile d'obtenir un vrai dialogue public.
Je vois très bien ce que vous dites.
Et j'ai participé moi-même au bicentenaire de la République, donc en 1982. Donc, c'était quelque chose qui était... 92, pardon. C'était quelque chose qui était extrêmement important, puisque c'était une étape de la Révolution à laquelle tenait beaucoup Michel Vauvel. Mais, cela dit, le dialogue, malgré tout, a eu lieu. Je dis que du point de vue idéologique, pendant ce temps, c'est l'école de Furet qui l'a emporté, pour la bonne et simple raison que tout était tendu, effectivement, sur... vers la chute du mur de Berlin et l'échec du soi-disant communisme. C'est-à-dire que cet échec du totalitarisme a montré en quelque sorte qu'il y avait une critique fondamentale, et c'est cela qui l'a emporté, comme s'il y avait une continuité entre 1789 et l'échec du mur de Berlin, puisque Fukuyama, d'ailleurs je ne pense pas que Furet aurait pu dire à peu près la même chose, c'est la fin de l'histoire, parce que un camp, c'est-à-dire le camp libéral, l'avait emporté.
Et du même coup, on a oublié que... À 8h15, pour continuer à évoquer les rencontres de Pétrarque et ce hors-série du Monde et de France Culture, Jean-Marie Borzex et Michel Rio-Sarseille.